Fascination des technologies et transhumanisme, c'est le titre de cet ouvrage que nous découvrons avec son auteur depuis le début de la semaine. Bonjour Père Tanguy-Marie Pouliquen.
Bonjour, bonjour
alors,
à tous.
On poursuit, hein, voilà, on survole un petit peu cet ouvrage que je conseille bien sûr au plus grand nombre des auditeurs. Alors la préface de cet ouvrage a été écrite par Monseigneur Jacques Duhaudeau, qui est directeur scientifique de l'Académie pontificale pour la vie. Donc là on ouvre, Père Pouliquen, un volet aussi sur l'institution Église et sa position concernant justement l'évolution de ces nouvelles technologies et ce transhumanisme. Quel est le regard de l'Église, le suivi de l'Église et quelques clés de vigilance et de prudence?
Alors l'Église n'est pas absente de ce débat. Les deux dernières encycliques, ou la dernière encyclique du pape François. Benoît XVI et la dernière du pape François ont mis en évidence ce danger possible des nouvelles techniques. Le dernier chapitre de Caritas in Veritate parlait de comment rendre compatible technique et développement social intégral, et en fait comment la technique peut fermer notre conscience, peut fermer notre raison dans l'immanence technologique, alors que notre conscience elle est appelée à être ouverte dans la transcendance des valeurs et bien sûr dans l'accueil de la présence. Le pape François, lui, dans son encyclique Laudato Si sur le développement social intégral, souligne le danger de cette nouvelle idéologie pratique que sont la mondialisation des nouvelles technologies qui avancent cachées, parce que sans débat immédiat, mais qui fascinent nos esprits parce qu'elles ont démontré une certaine preuve de leur efficacité au quotidien. Donc l'Église est très pensif, je dirais. Elle s'intéresse beaucoup à cette question pour une raison principale: défendre la dignité de la personne humaine. L'Église est une forme de mémoire de la sagesse de l'humanité. Elle est experte en humanité et son rôle est d'éclairer nos consciences pour défendre intégralement l'humain. Pour que nous puissions non pas dominer le jardin de la création. Le jardin de la création nous est confié, pas pour que nous le changions, mais pour que nous le cultivions selon une culture de vie.
Hein. Alors justement, ce jardin humain évolue très vite, hein. Ne sera-t-il pas modifié finalement
par
l'accélération de ces nouvelles technologies?
Aujourd'hui, on en arrive à la possibilité de changer l'humain.
Hein. Mais oui. Alors,
des grands noms disent très clairement leur position. Hein. Un processus est en cours, une intelligence non biologique peut dominer le monde prochainement, sans doute vers 2040-2050. Jean-Michel Truong, un grand chercheur en intelligence artificielle, nous allons pour lui devenir des cyborgs, des mi-hommes, des mi-machines, les ordinateurs passant de notre bureau à nos poches, puis dans notre cerveau, avec le risque de dématérialiser le corps. Le biologique sera-t-il effacé? Ce qui est inimaginable hier sera-t-il réalisable demain? De réparer, l'homme va être transformé, augmenté, jusqu'à peut-être devenir un simple neurone sans défaut génétique, hein, souligne par exemple Joël de Rosnay, le conseiller de la présidente de la Cité des sciences. Donc des grands noms disent on y va. Et l'Église dit si on y va.
Alors on va droit dans le mur. Alors que se passera-t-il, Père Pouliquen, quand l'homme sera capable de jouer à Dieu et de se prendre pour Dieu?
Eh bien, il ne sera plus pleinement humain. L'homme sans son créateur, je dirais, abîme la création qu'il est, la créature. Pour vraiment devenir soi-même, l'homme a besoin de son auteur premier, du créateur. Et c'est en étant en relation avec le créateur et en vivant dans cette bienveillance du créateur à l'égard de sa création que l'on devient vraiment, vraiment libre.
Donc permettez-moi, le tableau peut devenir très sombre aussi pour ce chef-d'œuvre de la création de Dieu au départ.
Un monde sans Dieu, les athéismes contemporains ont provoqué dans la Seconde Guerre mondiale 50 millions de morts. L'athéisme matérialiste, réduire l'homme à de la matière, finit après avoir conduit à la mort de Dieu, peut-être conduira à la mort de l'homme. Mais nous sommes responsables de donner une réponse très simple. Oui. Il suffit pour nous de cultiver notre personne à partir de ses ressources les plus belles, c'est-à-dire d'ouvrir toutes les portes, toutes les potentialités qui sont en nous. Rappelons-les rapidement. Ce corps, avec cette sensibilité qui s'ouvre à l'extérieur, mais avec l'intérieur, l'âme, avec toutes ces puissances à la fois dynamiques et toutes les puissances stables que sont l'intelligence, la volonté, la mémoire de l'être, et puis tout ce monde de l'esprit en nous qui est capable d'accueillir la grâce, la présence de Dieu, et puis cette formidable capacité de relations que nous avons pour construire des relations de qualité et pour découvrir que l'humain, c'est l'unité des deux, de l'homme et de la femme, vivant chacun vraiment la beauté de leur identité respective, mais en relation pour le bien de l'autre.
Vous parlez beaucoup de cet humain, de cette humanité et au fond de cette belle création et ce chef-d'œuvre de Dieu dans la création aussi de cette identité homme-femme. Comment résister sous cette pression aussi du transhumanisme qui se présente donc à nos portes et puis une accélération? Vous le dites, vous le redites, vous abordez de nombreux chapitres, hein, donc de nombreuses questions, et je conseille ce livre. Voilà, comment ne pas s'inquiéter, ne pas perdre l'espérance?
Deux choses. Il faut à nouveau cultiver cette vie intérieure, d'être bien avec soi-même, de s'aimer soi-même, de s'estimer soi-même et de nous détendre avec la beauté des autres et non pas avec la beauté artificielle d'images de petits films qui veulent défigurer cette beauté de l'homme. Regardons combien cette beauté que nous sommes beaux et que l'autre est beau. Et entrons en contact, en relation les uns avec les autres à partir de ce bien, de cette richesse de bonté, de beauté que je vois dans l'autre et que j'accueille sans mettre la main dessus, que j'accueille gratuitement et en me donnant gratuitement à l'autre. Le Concile Vatican II n'hésite pas à dire que l'homme, la femme se trouve elle-même dans le don gratuit. Retrouvons cette gratuité et non pas cette recherche d'efficacité.
Merci Père Pouliquen, c'est la fin de cet entretien, on vous retrouve demain, merci.
Bonne journée.